Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de VOA Afrique pour votre émission. À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans ce débat. Les autorités sud-africaines ont proclamé l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays à cause de la sécheresse qui sévit au Cap. L'Afrique australe a subi une très forte sécheresse aggravée par El Niño ces dernières années. Mes chères auditrices, chers auditeurs, faites-nous part de votre analyse sur cette crise environnementale et ses conséquences. Ou comment prévenir la sécheresse en Afrique selon vous? C'est la question qui vous a été posée sur le Facebook de VOA Afrique. Nous allons continuer ce débat avec un petit rappel donc sur la nouvelle du jour. Le Cap est frappé par sa pire sécheresse depuis un siècle. Ses réserves d'eau sont au plus bas et la ville est menacée de rupture d'approvisionnement en eau potable. Alors le gouvernement se voit donc confier la gestion de la crise. Notamment les institutions d'État doivent mettre en œuvre des plans d'urgence. Le redouté jour zéro a été reporté au 4 juin, reporté de 2 mois environ, pour retarder l'échéance. Les 4 millions d'habitants de la ville ont été invités à ne pas utiliser plus de 50 litres d'eau par personne quotidiennement et la consommation ne doit pas aller au-delà là dans les prochains mois. Et si le jour zéro se produit, les Captaoniens devront se ravitailler à 200 points de collecte d'eau où ils recevront un maximum de 25 litres par jour par personne. Alors on rappelle quand même que de fortes pluies ces derniers mois ont permis à l'essentiel de l'Afrique australe de refaire ses réserves d'eau, excepté la région du Cap. Nous avons un auditeur en ligne, Apollinaire au Tchad. Bonsoir Apollinaire. Allô Apollinaire. Alors on n'entend pas Apollinaire, on va aller directement à Conakry avec Thierno Oumar Diallo. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie Barge et bonsoir à l'ensemble des auditeurs et aux auditrices de VOA Afrique.
Bonne soirée, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Très bien, on vous écoute.
Merci beaucoup. Le problème de déforestation, c'est un phénomène qui concerne toute l'humanité. C'est un phénomène vraiment puissant qui touche toutes les forêts, en particulier en Afrique, parce que selon certains, plus de 10 millions d'hectares qui disparaissent. Une catastrophe pour la planète, vraiment. C'est quelque chose que nous devons lutter contre parce que selon certains, 80% des couvertures frontières mondiales originelles a été abattue ou dégradée essentiellement au cours des 30 dernières années. L'exploitation forestière est la principale cause des déboisements dans le monde et les ravages qu'elle produit sont énormes. Les arbres sont coupés ou brûlés infiniment plus vite que le rythme des érosions ou des plantations. Une gestion non durable, donc absurde de la ressource chaque année. De nombreuses forêts sont donc entièrement rasées avec des outils, des méthodes d'une incroyable efficacité. Beaucoup des arbres donc sont coupés alors qu'ils n'intéressent même pas les compagnies forestières. Ça veut dire victime collatérale. C'est quelque chose que tous les États doivent s'engager pour mettre fin à ça parce que ça va beaucoup souffrir les populations africaines parce que la sécheresse, c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux. Des solutions pour sauver la planète, stopper la déforestation à l'échelle mondiale est un objectif parfaitement réalisable si les dirigeants du monde acceptent de se donner la main au coût économique réduit avec un retour sur un investissement considérable à court et à long terme. Mais ils n'ont pas du tout, à mon avis, de volonté. Normalement, on pourrait les décisions comme décisionnent. Et vous savez, il y a beaucoup de foyers aussi améliorés dans les pays pauvres, émergents. La cuisine, on fait essentiellement au feu du bois. C'est une des causes principales de la destruction du couvert forestier dans les pays sahéliens, la recherche de bois avec la disparition progressive des forêts devient souvent une activité épuisante pour les femmes. La solution consiste à recourir à des foyers améliorés qui consomment beaucoup moins de bois, au mieux des foyers solaires. Ce dernier trait peut faire concession avec trois feuilles d'aluminium, les rayons de soleil et la casserole. En 3 heures maximum, tout s'est cuit. Ce système apporte des méthodes vraiment pour lutter contre la déforestation.
Un grand merci.
Récemment, l'exemple que je prends, c'est la Guinée. La déforestation sur la forêt classée de Giama, c'est quelque chose vraiment qui a vraiment indigné la population de la région forestière et en Guinée en partie, en général, parce que le gouvernement, avec la complicité de certaines élites originaires de la région, ils sont vraiment engagés avec des compagnies forestières pour aller faire du n'importe quoi dans cette forêt de Giama.
Un grand merci, Thiernot, un grand merci pour ces précisions. Comme on n'a pas pu avoir Apollinaire Seriabé tout à l'heure qui est au tchat, je vais lire son commentaire. Il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, la crise environnementale est surtout provoquée par le changement climatique et cela a de graves impacts sur les êtres vivants, dit-il. On peut mener des actions contre le réchauffement climatique et la déforestation afin de lutter contre la sécheresse en Afrique. Donc ça, c'est Apollinaire qui affiche le même point de vue que Thiernot que nous venons tout juste d'avoir. Et avant de prendre Christian Djirabé, qui lui est également au Tchad, il y a Peter Bosanja, qui est en République démocratique du Congo et qui a écrit sur notre Facebook « Je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités ». Donc là, il parle peut-être de la Centrafrique ou d'une manière générale. Nous avons donc Christian Djirabé en ligne, qui lui dit que le gouvernement a la responsabilité de la lutte contre la sécheresse. Christian, comment allez-vous ?
Je vais bien, Nathalie.
On vous écoute.
Oui, par rapport à ça, le gouvernement a la responsabilité de la lutte contre la sécheresse. Investir dans la campagne de sensibilisation à leur population, lutter contre la coupe abusive des arbres avec des sanctions sévères pour ceux qui détruisent l'environnement. Et il faut voir aussi des ONG qui viennent à implanter leurs usines ou bien leurs entreprises. Ils coupent des bois, ils détruisent la nature. Il faudrait que le gouvernement puisse les sanctionner à ce qu'ils font le reboisement pour lutter contre cette sécheresse. Et si le gouvernement n'investit pas vraiment dans la lutte contre la sécheresse, ça serait une catastrophe vraiment grave.
Un grand merci, Christian, pour ce point de vue sur le problème de la sécheresse en Afrique. Il y a Haroun Bakari qui pense que les autorités doivent prendre leurs responsabilités également en sauvegardant les plantes, dit-il, et il faut planter à chaque moment. C'est le point de vue de Haroun Bakari qui est également au Tchad, à N'Djamena. Nous avons Youssouf Ouedraogo en ligne à Yamoussoukro. Youssouf, comment allez-vous ?
Oui, je vais bien. Salut à tous les auditeurs et auditrices de VOA Afrique à la rédaction.
À vous la parole.
Alors, c'est vraiment triste de vivre une telle catastrophe en ce 21e siècle. Hein. Et si les responsabilités se situent à divers horizons, moi je pense que les changements climatiques restent pour nous la première cause d'effet secondaire à ce que vit aujourd'hui l'Afrique du Sud par-dessus elle, l'Afrique tout entière, même si le manque d'anticipation pratique, comme souvent de nos autorités, n'est pas du tout exempt de reproches aussi bien fondés que légitimes. Alors, cela dit, il serait important que soit mis sur la table, en ce qui concerne l'Afrique d'une façon générale, les bases d'une redynamisation ou, si vous voulez, une réévaluation des efforts en faveur du climat. Alors, l'Afrique étant le continent qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, nous, nous sommes les premiers États à recevoir de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Alors, les engagements seuls ne suffisent plus sans que cela ne soit suivi d'effets réels. L'Afrique dispose pourtant de terres cultivables assez riches avec un potentiel humain inestimable et pourtant, les populations africaines que nous sommes sont en majorité nourries par des pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis ou la Thaïlande, pour ne citer que ceux-là, qui disposent de moins de terres cultivables, mais qui arrivent à garder la même mise sur le marché de l'exportation des produits agricoles. Alors, il faut non seulement sauver le cap aujourd'hui de cette situation précaire, mais aussi l'Afrique de façon générale pour éviter que cela soit ne soit un mode d'effet pour les années futures que les enfants d'Afrique seront appelés à vivre, étant donné que les changements climatiques ne connaissent pas de réelles évolutions d'année en année.
Un grand merci, Youssouf, pour votre point de vue. Alors, je voudrais revenir sur la situation en Afrique australe par rapport à la sécheresse. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu ces derniers mois de fortes pluies hein, dans cette partie de l'Afrique australe, mais excepté donc au Cap. Donc, l'Angola, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe, ça va beaucoup mieux. Mais bon, il y a eu des problèmes d'insécurité alimentaire, hein, insécurité alimentaire grandissante. Forcément, pas de pluie, les récoltes sont mauvaises. 14 millions de personnes confrontées à des pénuries alimentaires hein, dans cette région, donc c'est quand même considérable. Et puis, il y a divers facteurs hein, aussi par rapport au changement climatique. On parle beaucoup des feux de forêt. Alors les feux de forêt, ben aux États-Unis, hein, des grands feux de forêt, hein, c'est annuellement qu'on a des feux de forêt ici hein, et pas des petits. Il y a eu le Portugal, hein, il y a eu également feu de forêt au Portugal. On a les inondations, on a les invasions de chenilles en Afrique et ailleurs, on a des combinaisons de catastrophes naturelles un petit peu partout, voilà. Et la sécheresse. On a quelqu'un qui nous appelle d'ailleurs de Philadelphie aux États-Unis.
Ah, c'est Jean-Pierre Guilavogui.
Jean-Pierre, très bien, on vous écoute. Comment allez-vous?
Je vais excellemment bien, et vous?
C'est formidable, moi de même, on vous écoute.
Alors, je suis très touché par l'émission et surtout ce qui nous arrive à travers le monde. Précisément, par exemple, je suis à Philadelphie. Ça se passe régulièrement des feux de brousse en Californie. Et cela touche des milliers et des milliers de personnes. Ils sont obligés d'être déplacés. Je crois que nous-mêmes, l'être humain, nous sommes à la base de ce qui nous arrive. Prenons par exemple l'exemple de ce que vous venez de dire, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Nous, moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest, et précisément en Guinée forestière. Nous avons les mêmes problèmes. L'État guinéen, par exemple, alloue à une compagnie française ou chinoise de venir couper les arbres.
Oui, on en a déjà parlé de ça, effectivement. La déforestation en Guinée, c'est un gros problème, en effet.
Mm-hmm. Oui, ça arrive. Je ne sais pas maintenant quelles sont les mesures que nous, tous qui sommes sur ce panel, et à travers le monde que nous devons faire pour arrêter à nous détruire. Parce que si l'atmosphère est polluée, je crois que la vie de chacun de nous diminuera. Donc je crois que c'est un problème. Normalement, on doit prendre ça vraiment, vraiment au sérieux. À savoir, par exemple, aux États-Unis, ici en Californie, comment l'État peut-on faire pour arrêter les feux de brousse?
C'est une question que vous posez, c'est
oui,
ça?
Oui, je pose ouais. Même à vous personnellement. Par exemple, quelle est votre idée, quelle est votre point, qu'est-ce que vous proposez?
Ce que l'on sait déjà, c'est que visiblement, il y a certains incendies qui sont des incendies criminels. Et puis, je ne sais pas, je ne suis pas une experte malheureusement, mais je sais que c'est des dégâts considérables. Je sais que les pare-feux, vous connaissez les pare-feux dans les forêts. Oui. Moi qui suis d'origine française, je sais qu'on a beaucoup, notamment dans les Landes, dans le sud, dans le sud-est, le sud-ouest, des gigantesques pare-feux, c'est-à-dire qu'on coupe la forêt sur une certaine largeur afin que si un incendie se déclenche quelque part, part, et ça existe, et ça, ça fait exact, et également aux États-Unis, un petit peu partout. Donc, si un incendie se déclenche quelque part, effectivement, il peut s'arrêter, il ne va pas attaquer toute la forêt. Je voudrais, moi, vous poser une question, parce que j'ai entendu que vous étiez originaire de la Guinée et vous vivez aux États-Unis. Et on parle beaucoup de l'eau. Vous connaissez la situation des Sud-Africains qui vont peut-être, qui sont déjà privés d'eau, hein, notamment au Cap. Est-ce que vous pensez que on prend bien soin de l'eau, par exemple, dans nos sociétés occidentales, ou est-ce que, selon vous, il n'y a pas un petit peu de gaspillage?
Alors, là, la question, elle est vraiment importante. Et je vous remercie. Ici, en Occident, personnellement, j'ai vu aux États-Unis, on économise beaucoup plus d'eau ici que vers chez nous.
Ah bon? Intéressant. Oui. Alors, on vous écoute.
Par exemple, le lot de toilettes. Ici, dans mon quartier, en Plymouth-Meeting, Pennsylvanie, dans l'état de Pennsylvanie, c'est avec 20 km de Philadelphie. L'eau usée et repart l'eau dans d'une...
Oui, c'est exact, oui.
Oui, mm-hmm. Voilà. Il est traité et l'eau est traitée, il revient.
Mais c'est qu'on a des eaux de plus en plus traitées aussi aux États-Unis. Ouais. Vous le savez, on le sent, hein, qu'elles sont traitées, les eaux. Oui. Mm-hmm.
Oui.
Mais ceci dit, c'est une eau potable.
Okay, cela ouais. aussi permet à concevoir, c'est-à-dire à réserver, à protéger l'eau. Mais par exemple, ouais. nous, en Afrique, j'ai une grande, je peux dire, une fleuve qui s'appelle Djani. L'eau quitte là, dans les rochers, il descend, il va se verser tranquillement dans la mer, dans l'eau salée. Donc là, nous perdons. Ici, par exemple, si c'est aux États-Unis, cette eau-là est conservée. Ça peut peut-être être utilisé par des milliers de populations.
Voilà, elle est recyclée. Un grand merci pour votre point de vue. Je voudrais citer Lenka Eratus qui a écrit sur le Facebook de VO Afrique: la crise environnementale n'est pas seulement en Afrique australe, mais en Afrique en général, dit-il. La prévention, oui, on doit toujours se baser sur la sensibilisation. Or, le problème est aussi au niveau des chefs d'État, dit-il. Au lieu de mettre à la disposition des populations du gaz, donc il est de N'Djamena, il est du Tchad. Ils font avérer le prix de ce gaz qui sont de leurs marchandises ou de leurs parents juste pour renflouer leur poche, dit-il. Je dirais que ces chefs d'État, où qu'ils soient, n'ont qu'à changer leur forme de gouvernance. Donc ça, c'est Lenka Eratus. Effectivement, on a beaucoup parlé du prix du gaz, un bon moyen, le gaz, pour lutter contre la déforestation. Mais dans plusieurs pays, dont le Tchad et autres, l'on se plaint de ce prix, hein, de ce prix. Et que notamment, il n'y aurait pas forcément tout le temps des subventions, justement. Il y a un de nos auditeurs qui propose justement des subventions pour l'Afrique du Sud et autres, hein, pour le gaz. On a un auditeur en ligne, c'est Osana Djimrangar Teadoum, qui est également au Tchad. On vous écoute.
Bonsoir, madame, et bonsoir à vos auditeurs.
Bonsoir, comment allez-vous?
Moi, sur cette question, oui, je vais mieux.
On vous écoute.
Sur cette question, moi, je dirais l'État doit prendre des dispositions en instruisant sa population sur les enjeux et les dangers de la sécheresse. Sinon, ici en Afrique, on voit que la désertification est un grand obstacle et c'est ce qui cause même la sécheresse. Donc l'État doit vraiment, comme les autres ont dit, ici le gaz butane est vraiment trop cher. Et pour un citoyen lambda qui n'a pas de ressources, il est obligé de couper les bois pour vraiment sa nourriture, pour la construction des maisons. Donc pour lutter vraiment efficacement contre ces phénomènes, nos autorités doivent essayer de voir ce qui se passe concrètement et trouver des solutions efficaces. lutter aussi contre la pollution. Sinon, sans cela, je pense que le problème va toujours continuer, quoi.
Un grand merci, Hosanna. On peut faire un petit rappel justement sur le fameux El Niño, hein, ce phénomène climatique qui est en fait difficile à comprendre, hein, par même par les scientifiques eux-mêmes. On en apprend tous les jours. En gros, c'est une peut-être le réchauffement des courants. Alors El Niño, c'est la conséquence d'une perturbation de circulation atmosphérique entre les pôles et l'équateur, et cela déplace les zones de précipitation dans l'océan Pacifique vers l'est. Alors ce phénomène climatique est une des anomalies, on va dire, dans la circulation qui peuvent dérouter notamment les cyclones tropicaux de leur route habituelle. Il peut déplacer les zones de précipitation et de sécheresse et changer le niveau de la mer par changement de la pression moyenne. On a un auditeur en ligne. Tidiane Botegueba au Cameroun. Bonsoir Tidiane.
Bonsoir à vous, mesdames, ainsi qu'à toutes les invités de la VOA. Bonsoir à vous, mesdames.
À vous la parole, Tidiane.
Oui, en tout cas, comme j'avais dit dans mon message, je pense que vraiment ça reviendra à nos différents, à nos États, vraiment de jouer réellement le rôle. Parce que si on peut prendre l'exemple de la Guinée, mon pays d'origine, la Guinée-Conakry, avec la Guinée forestière et avec la société Forestport. En tout cas, cette société, il est là en Guinée, en train de couper abusivement les bois, sans vraiment se rendre compte de la dangerosité vraiment de ce fléau. Donc, c'est pourquoi je dis que ça reviendra à l'État, vraiment de jouer pleinement le rôle, surtout à vraiment en disant cette société. Vraiment, si on coupe le bois, oui, mais si on coupe, on doit quand même remplacer. On ne peut pas seulement continuer vraiment à couper seulement ça remplacer. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'anormal. Parce que si ça continue comme ça, en tout cas, la Guinée forestière risque vraiment de devenir vraiment la Guinée, je ne sais pas c'est quoi, parce que...
Très bien. Très bien, Tidiane, merci beaucoup. On a d'autres auditeurs en ligne. Avant de prendre Diarra Kanyoumé, je voudrais citer notamment un auditeur au Sénégal qui n'a pas laissé son nom. Le problème, c'est que certains présidents n'y pensent même pas, dit-il. Ils ont d'autres préoccupations que la sécheresse. Il y a un Biki Katriflor qui est en RDC. Il dit accord. Il parle des accords sur le réchauffement climatique et il dit que l'Afrique est la première cible et voilà les conséquences. Conséquences qui en découlent, dit-il. Archiduc Théodore, qui est à N'Djamena, lui dit cette crise environnementale et ses conséquences, comment prévenir la sécheresse en Afrique, résulte du manque d'investissement dans l'agriculture et l'eau. C'est Archiduc Théodore à N'Djamena et nous avons donc Diarra Kanyoumé en ligne au Mali. On vous écoute rapidement pour pouvoir prendre d'autres auditeurs.
Ok, merci d'avoir m'appelé. Il faut imaginer que d'aujourd'hui, pour lutter contre cette fléau, il faut que les États africains prennent leurs responsabilités. Il faut imaginer qu'il y a des eaux courantes, mais actuellement, jusqu'à présent, il y a des populations qui sont en train de couper les arbres secs, comme les arbres qui n'ont pas sec. Donc, il faut imaginer que tout ça arrive avec la sécheresse. Il faut imaginer surtout au Mali. Pendant la saison passée, il faut imaginer que les riz avec les mille sont dans certains États quand la sécheresse arrive, il faut imaginer que vraiment la population n'est pas trouvée, au moins c'est leur nourriture. Il faut imaginer surtout vers côté cercle de Nara. Cette année, un sac de 100 kilos de maïs ou bien de mil, c'est 26 000 francs. Il faut imaginer que vraiment ça joue sur la population. Si tu as au moins 10 personnes ou bien au moins 15 personnes dans une seule famille, tu vas nourrir et comment? Donc je pense que vraiment il faut que l'État prenne les responsabilités pour sensibiliser la population ou ne pas qu'ils vont mettre feu de brousse dans les forêts avec au moins de couper les herbes en désordre. Donc je pense que vraiment...
Merci beaucoup. Un grand merci. Je voudrais lire le commentaire de Géchoron Abdoulaye qui est en Côte d'Ivoire. Il a écrit « La crise de l'eau est générale en Afrique, y compris dans les pays côtiers comme le nôtre », dit-il. Mais plus qu'une pénurie hydrique, c'est la qualité de l'eau qui est en cause. En Côte d'Ivoire, les spécialistes en la matière estiment que 80% de l'eau consommée contient des matières fécales. Donc, on ne saurait trouver la cause dans dans le seul phénomène El Niño. En effet, dit-il, la plupart des pays africains sont producteurs de pétrole. Or, il faut franchir la nappe phréatique avant d'atteindre l'or noir. Comment se fait-il que ces États n'arrivent pas alors à ravitailler leur population en eau potable? Donc, pour nous, l'incertitude hydride est plus structurelle que conjecturelle. Dixit Traoré, Géchoroun, Abdoulaye et chères auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot et à Cheikh Thierrou à la production. À très bientôt. Au revoir.